bienvenue sur l'antenne de MDM.
101 points de radio MDM
sur MDM.
MDM.
101 points de radio MDM.
Ah oui, MDM.
Il y a une créativité incroyable, je veux dire une richesse. Et ce sont des événements comme les journées du matrimoine, toutes en art comme celui-ci, qui permettent de mesurer l'extrême richesse de ce qui se fait dans le silence de la campagne.
C'est quelques mots de la docteure en histoire Marie-Jo Bonnet pour inaugurer ce tout premier épisode de Margot Guette. Margot Guette comme Margot Comte Goguette vous offre de joyeux propos. Les Goguettes étaient également des sociétés chantantes au 19e siècle et de chansons, il en sera question dans Margot Guette avec, comme nous le rappelons suffisamment sur les ondes de Radio MDM, une sélection aux petits oignons. Oui, parce que faire goguette, à l'époque avec un H, c'était se régaler aussi. Être en goguette, c'est être de bonne humeur sous l'effet du vin et de la bonne chère. Et ça, c'est ce que je vous souhaite, chers auditeurs, entre 11h et 13h, un jeudi sur deux. Profitez des joyeux propos que nous échangerons avec mes invités en ripaillant allègrement. Premier épisode placé sous la bonne garde de Marie-Jo Bonnet, disais-je, lors duquel nous allons parler d'art. La première définition du Centre National de Recherche Textuelle et Linguistique dit que l'art est un ensemble de moyens, de procédés conscients par lesquels l'humain tente à une certaine fin, cherche à atteindre un certain résultat. Pour tâcher d'avoir une idée un peu plus claire de ce que ça signifie ici, dans le département des Landes, trois invités avec moi en studio, Christophe Fazolato et Marie-Josée Lesgourgues, qui sont déjà installés. Bonjour.
Bonjour.
Et Anne Touré qui nous rejoindra en deuxième partie de notre magazine. Des reportages aussi au musée d'Espiau-Vléric et auprès de l'association Initiative Femmes, avec une question en filigrane pendant ces deux heures. Quelle place est faite à l'art à la campagne? Comment est-il reçu? Et tiens, une deuxième, qui le fait, cet art? Qui crée, qui œuvre? Allons goguetter ensemble, très chers auditeurs, à la recherche de nos réponses. That my best friend, she a real bad bitch, got her own money. She don't need no nigga on the dance floor. She had 2-3 drinks, now she twerking. She throw it out and come back in. That's my best friend, she a real bad bitch, drive her own car. She don't need no lift in a strip club. Know my girl gon' tip, now she twerking. She throw it out and come back in. Beep, beep, is that my bestie in a tasty? Fresh blowout, skin on town, oh she ready. Bitch, you look good with a T at the end. I'm a hyper every time, now my motherfucking friend. She been down since the jellies and the bobos. Now me stepping out the G, got my nut lows. When we pull up to the scene, they be filled with jealousy. If a bitch get finicky, she gon' bring the energy. I hit a phone with a T like, bitch, guess what? All the rich ass boys wanna fuck on us. All this ass sitting up, you could look, don't touch. And I'm back bustin' bands every time we link up. That my best friend, she a real bad bitch, got her own money. She don't need no nigga on the dance floor. She had 2-3 drinks, now she twerking. She throw it out and come back in. That's my best friend, she a real bad bitch, drive her own car. She don't need no lift in a strip club. Know my girl gon' tip, now she twerking. She throw it out and come back in. And that's my best friend, if you need a freak. I ain't dumb but motherfucker, she my Tweedledee. If she ride for me, she don't need a key. If you sideways, she straighten you with me to be. And she's so bad that I just can't take that bitch nowhere. She off her fish, I said, mm-mm, don't go there. Bitch, break her back, she protect and attack. Get that strap, let them buckle, foot on neck, give no air. Whole world wanna be us. Then my main bitch, she my day one. On my way, bitch, let you get drunk and celebrate, cause we the baddest in the club. That's my best friend, she a real bad bitch, got her own money. She don't need no nigga on the dance floor. She had 2-3 drinks, now she twerking. She throw it out and come back in. That's my best friend, she a real bad bitch, drive her own car. She don't need no lift in a strip club. Know my girl gon' tip, now she twerking. She throw it out and come back in. Ha. Best friend, you the baddest and you know it. Uh-oh, girl, I think our booty growing. Fuck it up, in the mirror, hit them poses. Best friends, and you motherfucking glowing. Best friends, and your wrist is like it's frozen. Uh-oh.
Oh girl, I think our booty growing. Fuck it up in the mirror, hit them poses. Best friend, you my motherfucking soulmate.
L'art, disions-nous, après l'art de cultiver son jardin, nous allons faire un tour du côté du musée d'Espiovlérique à Mont-de-Marsan. Le musée se vide petit à petit avant de faire peau neuve, mais pour l'heure, et ce jusqu'au 30 janvier 2022, dans la galerie des expositions temporaires, le musée d'Espiovlérique propose à ses visiteurs et visiteuses d'entrer dans l'univers de la création artistique en découvrant les ateliers des deux sculpteurs figuratifs Robert Vléric et Christophe Charbonnel. Une découverte de l'envers du décor pour une mise en lumière des œuvres exposées. Et à la veille des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine, les 18 et 19 septembre dernier, le sculpteur Christophe Charbonnel a dispensé 2 jours de classe à des habitants et habitantes de notre territoire. À cette occasion, nous nous étions donné rendez-vous un peu avant l'arrivée des élèves. Ce matin-là, l'air était frais et le ciel bleu. Bonjour Christophe Charbonnel.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer où on est là, en ce moment?
Là, on est dans le jardin du musée d'Espiovlérique. Il est 8h30 et il fait beau.
Et vous êtes là pour animer une masterclass avec quelques habitants et habitantes du territoire montois?
Tout à fait. Alors masterclass, c'est un bien grand mot. On va partager quelques notions de modelage, principalement les bases, grâce à une technique qui m'a été confiée ou transmise par mon professeur Philippe Séné.
Alors, vous allez donc transmettre cette technique à des non-initiés, a priori. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous, de votre art et de comment vous y êtes arrivé?
Ok, alors
c'est
assez vaste. Donc j'ai 54 ans, ça fait à peu près presque 30 ans que je fais du modelage. J'ai commencé à 25 ans en même temps que je suis rentré dans les studios Disney, les studios d'animation. Ça a été une révélation pour moi, le modelage. J'ai eu la chance d'avoir un professeur qui avait une sensibilité très proche de la mienne, ou moi très proche de la sienne. Et j'ai bu ses paroles pendant 2 ans. Et à l'issue, il m'a demandé de partir de ses cours et de faire mon propre chemin. Donc j'ai travaillé pendant une dizaine d'années tout seul. Ensuite, j'ai quitté les studios Disney, je me suis lancé complètement dans le modelage. Et j'ai la chance d'être extrêmement bien accompagné par mon épouse dans un premier temps et par mon partenaire technique qui est mon fondeur et par une très bonne galeriste avec qui je suis en contrat d'exclusivité.
Juste avant de poursuivre, Disney, comment on passe de Disney au modelage? Qu'est-ce qui a fait? Le lien est où en fait?
Au départ, je voulais faire de la bande dessinée. Et puis quand je suis rentré dans les studios Disney, j'ai en même temps pris des cours de modelage parce que je faisais du modelage en autodidacte. Et je me suis très vite rendu compte qu'il y avait des questions techniques que je maîtrisais absolument pas. Et donc il fallait que je prenne des cours. Et donc parallèlement à mon avancée chez Disney, où là j'ai rencontré énormément de grands dessinateurs, où je me suis dit que le dessin c'était peut-être pas forcément tout à fait mon truc, j'ai rencontré donc le modelage. Mais c'est très lié en fait, dessin et modelage, ce sont des choses qui sont extrêmement liées, en définitive.
En quoi?
Dans la façon dont on éduque l'œil avec le dessin. Et le dessin d'après modèle vivant est quelque chose qui peut servir en fait au modelage, les notions d'anatomie, les notions de rythme, de ligne de force, de proportion. C'est des choses qu'on va étudier de façon très approfondie en dessin, avec une mise en place qui est assez légère par rapport au modelage, qui nécessite un investissement de temps, de machines, d'espace, qui est beaucoup plus lourd que le dessin en fait.
Vous avez évoqué quelques membres de votre équipe, ça c'est quelque chose que vous revendiquez. L'artiste ne travaille pas tout seul, il y a tout un monde autour de lui pour que les œuvres puissent voir le jour.
Dans mon cas, oui. Après, pour un peintre, c'est différent, mais pour un sculpteur, ou en tout cas pour un modeleur comme moi, c'est indispensable. Il y a des notions de moulage, des notions de ciselure, des notions de fonderie, de patine, qui nécessitent d'être extrêmement bien accompagnés. Donc on met beaucoup l'artiste en avant, mais l'artiste, c'est une très belle équipe, en fait. Dans mon cas, on peut compter, quand on voit un bronze de Charbonnel, on compte 8 métiers. Voilà. Donc bon, il y a l'artiste, il y a un premier mouleur qui va permettre de faire ce qu'on appelle tirer l'original en plâtre. Cet original en plâtre, il va partir en fonderie, il va être remoulé par un autre mouleur, ça fait donc déjà 3 personnes. Il va être moulé dans un moule qui va accepter la cire. Il y a un cirier qui va équiper la cire et la retoucher. Il y a ensuite un autre mouleur qui intervient pour faire un moule en plâtre réfractaire ou une coque céramique qui va accepter le bronze en fusion. Là, on est à 5. On a ensuite le fondeur, le ciseleur, le patineur et le galeriste, ça fait neuf.
Finalement neuf. Donc il y a vraiment tout un monde qui gravite pour que finalement ça puisse voir le jour.
Voilà, et on est sur bien sûr du lien professionnel, mais aussi sur du lien affectif, parce qu'on est sur un matériau ou sur une approche des choses qui est assez sensible en fait. Donc le lien, il est bien sûr professionnel, qualitatif, mais aussi affectif. C'est plus qu'une relation professionnelle en fait.
Alors là, pour les classes que vous dispensez au musée d'Espiau Lyrique de Mont-de-Marsan, il n'y a pas toutes ces équipes. Du coup, qu'est-ce que vous leur faites faire et qu'est-ce que vous leur expliquez ?
Alors là, j'essaie de leur expliquer les bases en prenant comme sujet un portrait d'imagination, sans modèle. Il y a plusieurs façons. C'est pas une vérité. Ce que je leur montre, c'est pas une vérité. C'est une façon de faire. Il y a autant, on dit 1 million de moines, 1 million de religions, 1 million de sculpteurs, 1 million de façons de faire de la sculpture. Donc, je leur montre le chemin que moi j'ai arpenté déjà depuis un certain nombre d'années. Et je parle de considération, de profil dynamique, de jeu d'ombre et de lumière, de comment est-ce qu'on construit une pièce et comment est-ce qu'on fait en sorte que cette pièce puisse tourner en fait, puisse être en ronde bosse, ce qu'on appelle une ronde bosse. Donc on doit pouvoir tourner autour sans aucun moment être gêné par une face. Voilà. Donc bon, c'est tout ça, il faut le voir quoi.
Et qu'est-ce que vous aimeriez qu'il garde de ces deux journées passées avec vous ?
De la joie, tout simplement.
Alors, j'ai noté une phrase dans une interview que j'ai écoutée de vous. Vous dites que la sculpture, c'est il faut s'écarter de la réalité pour servir la poésie. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que en fait, c'est un travail sur le sensible. On doit être dans l'émotion. L'art, c'est pour moi, c'est la poésie, c'est la manifestation d'un état poétique. Que la réalité, ça peut être un départ. Sur lequel s'appuyer pour manifester sa propre sensibilité. Et là, on peut être dans la poésie.
C'est pour ça que vous imaginez ou créez des choses très grandes ?
C'est parce que j'y vois rien, en fait. Donc je préfère travailler en grand. Non, sérieusement, c'est que ce qui est chouette, c'est que une sculpture monumentale, elle est en extérieur. Généralement, on peut la mettre dans la ville, on peut la mettre dans un jardin, et elle appartient à tout le monde en fait. C'est ça qui m'intéresse aussi. Et j'ai l'impression d'être un gamin quand je me retrouve face à des pièces qui sont plus grandes que moi, et ça m'amuse beaucoup.
Ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, de rendre l'art accessible au plus grand nombre ?
Oh oui,
c'est
oui.
C'est un peu une
ouais.
Je suis désolée.
Ouais, mais c'est complètement ça. Dans la sculpture, les pièces qui rentrent dans les intérieurs sont des pièces qui sont réservées aux gens qui ont les moyens de se les payer. Je valide ça et j'assume parfaitement. Mais je veux aussi qu'on puisse se promener et au détour d'une rue ou dans une forêt, tomber nez à nez avec une sculpture et pouvoir se l'approprier l'espace d'un instant. Et ça me plaît énormément. Ouais.
Et donc vos sculptures monumentales, mais pas que, on a pu les observer justement en centre-ville de Mont-de-Marsan lors de la triennale Mont-de-Marsan Sculpture. Votre lien avec cette ville, ça fait un moment qu'il existe, depuis 2015 ou 2016, je ne sais plus exactement. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre relation avec Mont-de-Marsan ?
Bon, ça a commencé par une personne, hein, cette relation. Ça a commencé par le conservateur du musée, Christophe Richard, que j'aime beaucoup, et qui m'a permis de réaliser un rêve, c'était de mettre des sculptures en extérieur, dans une ville. Ça a été pour moi quelque chose de prodigieux. J'aime beaucoup ce qui se passe ici, j'aime beaucoup la dynamique du musée, j'aime beaucoup la sensibilité qu'il y a dans toute cette équipe du musée, leur façon de faire des expositions, de mettre en place une exposition. Là, en ce moment, j'ai la chance d'exposer au musée dans ce qui ressemblerait à une tentative de reproduction de ce qu'est mon atelier. C'est un peu plus propre que ce que c'est chez moi. Mais derrière, il y a l'atelier de Vléric qui est aussi une reconstitution. Et c'est des lieux qui sont chargés en poésie. Je suis très touché par ce qui se passe ici. Et la volonté de toute cette équipe, de Christophe Richard, et de toute cette équipe pour faire vivre l'art et partager tout ce patrimoine extraordinaire qu'il y a ici en fait.
Est-ce que vous vous retrouvez dans l'art de Vléric ? Est-ce qu'il y a quelque chose dans vos deux manières de créer et qui vous interpelle ?
Ouais, on est des modeleurs l'un et l'autre à quelques années de différence. Après, c'est un maître, hein, c'est mon aîné. Je pourrais imaginer appartenir à cette lignée-là. Quand on voit les deux ateliers reproduits, on voit qu'il y a des outils similaires, on voit que il y a une sensibilité en commun. Cette sensibilité qui est vraiment une sensibilité de modeleur. Nous, les modeleurs, on est différents des tailleurs de pierre. On monte jusqu'à la forme, les tailleurs de pierre descendent jusqu'à la forme. Donc, Vléric et moi, il y a une sensibilité en commun, voilà.
Monter jusqu'à la forme, ça veut dire que vous partez de rien.
D'une armature.
Ouais, et vous créez autour.
Et on rajoute, comme disait mon prof, nous on écrase des boulettes de terre pour arriver à la forme. Voilà.
Alors que les tailleurs de pierre,
ils enlèvent. Ils enlèvent des bouts de pierre et le marbre, à chaque fois qu'on lui donne un coup, il vous en rend un. La terre, c'est pas du tout pareil. C'est beaucoup plus sympa, en fait. À mon sens, pour ma sensibilité.
Ok. Et du coup, la terre, c'est parce que vous avez rencontré Philippe Séné qui, lui, faisait ça ?
Tout à fait. Okay. C'est tout à fait ça. Mais après, je me rends compte, j'ai essayé la taille de pierre, mais j'ai pas cette intelligence-là. J'ai vraiment une intelligence de modeleur. C'est très différent intellectuellement, c'est vraiment la démarche inverse. Okay. Taille de pierre et modelage, c'est deux choses très différentes, en fait. Même si le résultat est une sculpture en 3D, enfin en ronde bosse, quoi.
Est-ce que vous arrivez à définir la différence où elle se...
La différence entre modelage
ouais,
et...
Ouais, je vois l'idée d'ajouter et enlever, mais...
C'est, intellectuellement, ça n'a rien à voir. C'est... comment dire, les tailleurs de pierre parlent plus volontiers de plan. Nous, c'est un terme... Le modeleur puriste n'utilise pas le terme plan. On ne parle pas de plan. Nous, on parle de profil. On parle de profil, et il y a une infinité de profils sur une pièce, et notre travail consiste à les mettre en place. Mais tout tient dans le fait que le modeleur monte jusqu'à la forme. Si jamais il se trompe, on enlève, on recommence. Le tailleur de pierre, il descend jusqu'à la forme. S'il enlève trop, c'est foutu. Donc il faut trouver d'autres solutions ou bricoler des choses, mais c'est pas du tout la même, c'est pas du tout la même approche. C'est une approche qui est beaucoup plus rigoureuse, mathématique, qui nécessite d'ailleurs que le tailleur de pierre soit un modeleur, parce que généralement il fait une maquette en terre de la pièce qu'il va réaliser en marbre ou en pierre ou en autre chose, quoi, ou en bois.
Il y a un peu plus de liberté finalement.
Oui. C'est... D'ailleurs, les modeleurs n'étaient pas considérés comme des artistes jusqu'au fin 18e. On considérait pas le modeleur comme un artiste. On le considérait comme un artisan d'art. Mmh. Voilà, moi ça me va.
Artisan d'art.
Ça me va.
On parlait donc de Mont-de-Marsan. Vous, Christophe Charbonnel, vous êtes parisien. Je ne sais pas si vous êtes parisien d'origine, mais en tout cas, vous y vivez.
Je vis en région parisienne.
Ouais. L'art est souvent concentré dans les grandes villes. Est-ce que venir ici, justement, à Mont-de-Marsan, entretenir cette relation et exposer ici, créer du lien avec les gens de ce territoire, c'est aussi quelque chose d'important selon vous ?
Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a cette volonté d'un musée figuratif qui est de la deuxième moitié du XXe siècle jusqu'à maintenant, et de participer à cette aventure, alors qu'il y a encore quelques dizaines d'années, on pensait que l'art figuratif était mort, de voir qu'il y a toujours un attrait du public pour l'art figuratif, ça me touche beaucoup. Maintenant, je me rends compte, parce que je me promène pas mal en France, qu'il y a beaucoup de villes où il y a des concentrations d'artistes énormes. Donc il y a effectivement les grandes villes où on met l'art en avant, mais il y a tout un tas en France, la France entière est remplie d'artistes, est couverte d'artistes, il y a un réseau d'artistes extraordinaire en France, et c'est une grande richesse de notre pays, en fait.
MDM. Bienvenue sur la moins pénible des radios.